Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler cinéma. Et aujourd'hui, eh bien, on aura un invité, ou du moins quelqu'un que j'ai pu rencontrer. C'est le réalisateur de Mars Express, Jérémy Perrin. Et on se fera donc un plaisir de l'écouter parler de ce film d'animation. Bonjour Manu.
Bonjour.
Alors toi, on peut dire que tu t'es dévoué.
Je me suis dévoué pour aller voir Napoléon,
oui,
effectivement, parce que Ridley Scott.
Parce que autant le film démarre bien aux États-Unis, il a été quand même accompagné d'une petite polémique en France. Nous parlerons aussi de Perfect Days de Wim Wenders, qui était à Cannes et qui a ramené le prix d'interprétation pour son comédien principal. Et puis de Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Mais nous commençons avec un film qui était présent dans la section Un certain regard. Une mère de famille à qui on enlève la garde de ses enfants, fait tout ce qu'elle peut et même l'impossible pour les récupérer. C'est Rien à perdre avec Virginie Efira.
Ben oui, c'est le film et le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Alors, je vous présente Sylvie. Son fils a été placé 6 mois le temps d'une enquête. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu.
Sylvie, la quarantaine, se débat comme elle peut pour élever, dans tous les sens du terme, les hommes de sa famille. Ses deux fils, d'abord, et ses frères, ensuite, un peu paumés. Un soir, alors qu'elle travaille dans une boîte de nuit et que ses fils sont seuls chez elle, l'un d'entre eux renverse par accident la friteuse et se retrouve brûlé. Il n'en faut pas plus pour mettre en marche l'implacable machine administrative. Les services sociaux veulent retirer à Sylvie la garde de ses enfants.
C'est un principe de précaution. Une mère absente, un mineur blessé, ils ont peur de passer à côté d'un enfant maltraité.
Qui a fait le signalement?
La police.
Ou l'hôpital.
Et vous, vous verrez le juge dans 15 jours.
Il ira où pendant 15 jours?
Il ira dans un foyer.
Il n'ira pas dans un foyer, vous êtes malade, vous, quoi?
70 à 80% des placements d'enfants sont ordonnés suite à ce que les services sociaux appellent des défaillances. Un mot au contour assez flou pour parler de parents dépassés, endettés ou bien d'enfants qui sont difficiles à gérer, de carences dans l'éducation ou encore de logements inadaptés. C'est le sujet qu'a choisi d'aborder Delphine Deloger, sans remettre en question l'importance du placement d'enfants en France, qui peut s'avérer évidemment salvateur à bien des égards. Connue et reconnue pour ses documentaires primés, la réalisatrice a porté ce projet de premier long métrage « Rien à perdre » à bout de bras pendant 4 ans. Et c'est finalement Virginie Efira qui avait donné son accord pour interpréter le premier rôle qui sauvera le film en lui trouvant un producteur. L'histoire se termine bien pour Rien à perdre, qui sera même présenté en 2023 au Festival de Cannes dans la sélection Un certain regard.
Il est 16h, Sofiane, on va y aller.
Avant qu'il revienne chez toi, il faut que tu nettoies tout à la Javel. Ta vie, ton frigo, ton passé.
Non, mais pas ça. Mes meilleurs sentiments.
Ah, qu'est-ce que tu veux mettre?
Non, t'as des sentiments pour le juge, toi? Bah, moi pas, hein. Non.
Dans des sables mouvants, là, plus tu te débats, plus tu t'enfonces.
Ta mère, elle s'en est toujours sortie.
Je sais pas comment elle fait, mais à chaque fois, elle s'en sort.
Putain, c'est pas assis le cul sur votre chaise que vous allez récupérer vos gosses.
Hey, crapaud, tu sais qu'on va pas te laisser là-bas, hein, ok? Tu sais ça?
Les dialogues très bien écrits sont la grande force du film. Il s'appuie sur des heures d'enregistrement sonore entre parents et services sociaux, sur des rencontres entre la réalisatrice et des familles d'enfants placés, des juges, des avocats, ce qui permet d'aborder toute la complexité de ces procédures judiciaires. Et puis la belle idée du film, eh bien, c'est d'associer Virginie Efira, qui contrairement à d'autres actrices françaises ne détonne pas dans un film social, avec la ville de Brest, une ville peu filmée, hein, dans le cinéma français et assez peu lumineuse, il faut le dire, quoique finalement plutôt cinégénique. Seul défaut, si l'on peut dire, de ce western social, comme la réalisatrice le définit elle-même, c'est que le film sort peu de temps après le film Comme une louve de Caroline Glorion, un film que j'ai chroniqué dans Cinérama et qui abordait exactement le même sujet.
Rien à perdre de Delphine Deloget est en salle depuis le 22 novembre. Un homme qui nettoie avec application les toilettes d'un quartier de Tokyo s'ouvre peu à peu aux autres. C'est Perfect Days de Wim Wenders.
Bah oui, c'est le film et le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Wim Wenders, c'est le Festival de Cannes, c'est plutôt une belle histoire. Hein. Le réalisateur allemand y a reçu la Palme d'Or pour Paris, Texas, et puis le prix de la mise en scène pour Les Ailes du Désir. Et cette année 2023, il est reparti, enfin son acteur, Koji Yakusho, avec le prix d'interprétation. Ayant eu la chance de voir le film dans la même salle que l'équipe, et donc en même temps que Wim Wenders, je recommande de voir ce film également au cinéma, où il prend toute son ampleur. Dans Perfect Days, on suit le quotidien d'un Japonais, qu'on dirait proche de la cinquantaine, qui nettoie les toilettes public d'un quartier de Tokyo. C'est une tâche qu'il accomplit à la perfection, sans rechigner, n'attendant aucune gratitude des utilisateurs. Il passe plusieurs séquences à briquer les cuvettes, de quoi nous livrer plusieurs astuces pour devenir monsieur propre. Mais l'essentiel n'est pas dans ce rituel-là, mais dans les autres, ceux qu'il accomplit chez lui quasi invariablement. Déplier son lit, lire un ouvrage, prendre son café au distributeur, conduire sa camionnette en y mettant une cassette, et oui, une cassette, passant un tube des années 70 ou des années 60. C'est Patti Smith, c'est Van Morrison, c'est Nina Simone, ou encore Lou Reed et son fameux Perfect Day. Alors, au singulier, ici, pour le film, on place le pluriel compte tenu de l'aspect répétitif du quotidien du Japonais qui sait aussi mettre de la poésie dans les instants, tentant de photographier la lumière du soleil qui passe dans le pli des feuilles. Cet homme est plein de ressources mais se retrouve contraint au minimalisme. Alors d'abord mutique, il va s'ouvrir petit à petit au monde qui l'entoure et plus exactement aux humains. C'est un jeune collègue, c'est aussi sa nièce qui trouve refuge chez lui, quittant sa maison. Celle-ci est pourtant 20 fois plus grande que celle de son oncle qui n'a pas suivi la même route que sa sœur qui déboule un soir conduite par un chauffeur. Mais c'est là que se situe le regard très net du réalisateur sur la ville à penser. Être n'est pas avoir. Notre homme en fait presque sa sourde devise. La mise en scène relaxante module les séquences et assume les répétitions non pas pour nous endormir, mais pour nous éveiller à un monde lumineux qui ne s'aperçoit pas comme tel du dehors. Perfect Days est en salle depuis le 29 novembre. Et si on écoutait un petit bout de Lou Reed ?
Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun.
On est enthousiasmé par la sortie d'un film d'animation français de science-fiction. C'est Mars Express et c'est l'interview de cette émission.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Les films de science-fiction sont rares en France, il faut beaucoup d'argent pour en faire et malheureusement ce sont les Luc Besson ou les productions Astérix qui raflent tout. Après, il existe des films de science-fiction fauchés comme Alphaville de Godard, mais traditionnellement, la science-fiction est un genre que les studios hollywoodiens prennent en charge pour le cinéma mondial. Dernier exemple en date, The Creator, sorti en octobre, qui nous emmenait dans un futur pas si lointain, dans un monde partagé entre humains et robots. La donne est quasiment la même dans Mars Express, film d'animation réjouissant réalisé par Jérémy Perrin, qui est passé par la plage de Cannes et Annecy avant d'atterrir en salle. Le budget est de 8 millions d'euros, suffisamment confortable pour prendre le temps de faire une belle œuvre qui nous fait quitter la Terre pour Mars, où vit l'élite économique dans une immense ville sous cloche avec un ciel californien toujours bleu. La belle idée de Jérémy Perrin et de son complice scénariste est de nous plonger dans un film noir tout autant que dans un film de science-fiction. Disons-le, Mars Express est un film qui déroule une enquête menée par une détective privée, Aline Ruby, qui a un petit problème d'alcool, et nous sommes en 2200. Et c'est au travers de son enquête que l'on découvre bien toutes les strates de la vie martienne. Il y a tout type de robots, tout type d'hommes. En y réfléchissant, Jérémy Perrin a tiré le fil d'une société telle qu'on la connaît, qui aurait fini de s'interroger sur l'intelligence artificielle, mais aurait quand même un peu les chocottes de la suprématie des robots. Dans ce Mars 2200, il y a de quoi s'interroger car c'est le foutoir. Il y a les robots qui respectent les trois lois de la robotique que vous connaissez par cœur. Peut-être que tu en connais d'ailleurs une ou deux.
Les lois
ou
de
trois.
La robotique ?
Oui.
Ben non, comme ça, je ne sais pas.
Eh ben, je vais les rappeler.
Ben voilà, rappelle-les, parce que...
Alors, donc, la première, c'est « Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. » Deuxième règle, « Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. » Et la dernière loi, « Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. » C'est à programmer dans un robot, hein, voilà. Mais il y a aussi donc des modèles d'Android sauvegardés dans lesquels un être humain a été transposé, mais celui-ci doit également respecter les règles de la robotique. Mais il y a un dernier modèle, le déplombé, qui lui y échappe complètement. Le déplombage des robots est une opération logicielle qui consiste à faire sauter leurs verrous légaux. Cela leur permet de les émanciper de la tutelle humaine et de trouver la liberté. Et c'est bien le problème donc dans Mars Express. C'est dans cette intrigue que l'enquêtrice Aline Ruby, accompagnée par Carlos Rivera, un sauvegardé, eh bien que nous allons plonger avec délices. Et nous allons parler de ce film avec son réalisateur. Nous avons bien de la chance. C'est Jérémy Perrin.
Chris Roy Jacker vous attend dans votre bureau.
Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer ?
Ah oui, lui aussi mis à jour.
C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing.
Jérémy Perrin, vous nous projetez en 2200 et vous avez finalement un peu grossi les traits de ce qui pourrait nous attendre et de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là hein, quand vous avez écrit le scénario.
Ouais, bien sûr. En fait, je pense que... Alors, on n'est pas du tout obligé de voir ça comme ça, mais il y a beaucoup d'œuvres de SF qui sont pétries des problèmes sociopolitiques, économiques de leur temps. Simplement, c'est extrapolé, c'est grossi à la loupe, et généralement par le prisme de la technologie ou d'un futur exagéré. En fait, c'est une situation. On peut penser à Soleil Vert, par exemple. Bon, alors lui qui a quand même prédit des choses assez importantes, mais qui a vu venir, qui a senti un truc qui était en train de se passer, notamment sur la surpopulation, sur le. Alors c'est pas tant la surpopulation que le manque de ressources en fait dans Soleil Vert. C'est un truc qui est en train de nous arriver effectivement, mais voilà. J'ai pas d'exemple qui me vienne immédiatement en tête. Mais si, Minority Report, évidemment, sur la société de contrôle, mais qui était déjà aussi dans 1984, enfin voilà. Et oui, bah, en fait, nous, on est parti aussi du fait que, au départ, on avait vraiment cette idée d'aller sur Mars comme quelque chose d'un petit peu exotique. Et puis finalement, on a décidé de rendre ça pas du tout exotique, enfin de partir à l'inverse quand on a entendu les premiers fantasmes de Elon Musk et de Jeff Bezos d'aller dans l'espace et de, pour l'un, coloniser Mars et pour l'autre, de faire des stations spatiales habitables totalement artificielles. Et on s'est dit avec Laurent Sarfati, qui est le co-scénariste du film, bah super, ça va être quoi leur paradis à eux ? Ça va être un paradis pour eux, en fait, et pas pour les autres, pas pour les 99% de la population, quoi, qui vont laisser derrière eux, alors qu'en plus, ils sont certainement représentatifs de... la raison pour laquelle on est dans cette situation aujourd'hui de changement climatique, de pollution, etc.
Mode sobriété activé.
Ouais, désactivation.
Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun ?
Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement.
J'ai essayé de l'éteindre. C'est pour ça que l'Android se défend.
Désactivation ! Il enfreint la directive 1.
Votre Mars, on a l'impression que c'est une espèce de Californie sous cloche, tandis que la Terre, c'est un cloaque infâme, enfin voilà, personne n'a envie d'y aller. Et donc le Mars, c'est un refuge pour les riches, bon, qui n'est pas sans problème, et c'est ce qu'on découvre. Alors, on est dans un film de science-fiction, mais ça prend aussi les codes du film noir, puisqu'il y a une enquête, il y a une détective qui a un problème avec l'alcool, enfin voilà, vous avez, de manière assez habile finalement, on va sur une enquête, ce qui nous permet de découvrir un monde et des personnages.
Ouais, c'est ça. En fait, avec Laurent, on a voulu créer un monde de SF le plus crédible possible, d'une certaine façon, en déroulant le fil de l'actualité et des connaissances scientifiques qu'on avait aujourd'hui. Et en même temps, après, on se dit, bon, bah super, on a un univers, mais il faut quand même qu'on ait une histoire qui va avec ça. Et c'est quoi notre histoire? Et ça serait quoi le moteur pour aussi visiter cette ville? Et en fait, la figure du détective privé nous a apparu paru hyper intéressante parce que c'est un archétype qui a tendance à connaître toutes les strates de la société. C'est-à-dire que c'est un personnage qui va autant des bas-fonds que dans les quartiers huppés. Souvent, d'ailleurs, la mission des détectives privés est souvent donnée par quelqu'un qui est très riche, etc. Enfin, voilà. Et donc, on peut vraiment comme ça traverser toutes les classes sociales. Et c'est un personnage qui donc connaît bien son milieu et ce qui nous permettait comme ça de le suivre et d'avoir un peu un guide tout trouvé. Mais en même temps, comme je le disais, je voulais pas non plus que ça soit exotique et c'est pour ça que la mise en scène du film, elle se veut presque contemporaine de l'époque à laquelle se passe le film. C'est-à-dire, on va pas faire des plans Tour Eiffel ou des plans carte postale. C'est ça que je veux dire. J'ai essayé de me dire, j'habite en 2200 dans cette ville, donc je m'en fous un peu de l'architecture, je m'en fous un peu du côté extraordinaire de cet endroit. Ce que je vais trouver extraordinaire, c'est les choses que les personnages vont trouver extraordinaires et pas leur quotidien. Leur quotidien doit être filmé comme quelque chose de quotidien.
Bah on peut peut-être aller sur certains personnages, notamment ce que vous mettez par rapport à ce que pourrait devenir notre monde cybernétique, avec la conscience qui est transférée dans un robot, il y a les corps dupliqués. Donc ça pose tout un tas de questions finalement métaphysiques. Enfin, vous appuyez là-dessus.
Alors après, c'est un ressort assez classique de la SF maintenant, et en particulier depuis Philippe K. Dick, qui a toujours travaillé cette frontière floue entre savoir ce qui est vivant, ce qui est mort, ce qui est naturel, ce qui est artificiel. Et donc, on continue cette trajectoire de réflexion. Et justement, à travers surtout le personnage de Carlos, effectivement, qui est persuadé d'être un humain, alors qu'il n'a plus aucune cellule humaine en lui. C'est plus que du plastique et du métal. Et donc, la question de savoir où se situe l'humanité dans ces conditions-là. Est-ce qu'il est vraiment humain ou est-ce qu'il n'est pas autre chose? Et est-ce que cette autre chose vaut plus ou moins que être humain? Moi, je crois pas, mais voilà. Après, c'est une manière à la fois de discuter de la nature humaine, qui sera jamais réellement définie en vérité, mais c'est toujours rigolo d'essayer d'y réfléchir. Et en même temps, les robots, c'est aussi une métaphore, pas seulement de... le film, il avait à la fois la volonté de discuter des robots et des machines, des IA, sur un premier degré qui devait être crédible et juste. Et en même temps, il y a un second degré de lecture sur les robots du film qui sont une métaphore plutôt, disons, des marginaux, des laissés pour compte, des minorités, quoi, en gros. Quelle qu'elle soit.
Vous avez des prostituées humaines ?
Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur ?
C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot.
On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté.
C'était Jérémy Perrin qui nous parlait de Mars Express, film d'animation en salle depuis le 22 novembre. À Halloween, on a des films d'Halloween. À l'approche de Thanksgiving, on a des films...
De Thanksgiving.
Voilà.
Non, mais je crois que c'est le premier qui nous atterrit quasiment. Oui. Enfin, on n'en a pas vu d'autres. J'ai pas l'impression.
En tout cas, en France.
En France, voilà. Oui, parce que c'est pas notre culture du tout.
Hein. Oui. En France arrive donc Thanksgiving, la semaine de l'horreur de Eli Roth. Et c'est Guillaume qui nous en parle.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça ? Une blague ou quoi ?
J'aimais vraiment cette ville. Jusqu'à cette horrible soirée. J'en ai marre de faire semblant que tout est normal, alors que c'est faux.
La note d'intention est claire dès le premier plan. Alors en reprenant l'ouverture iconique du Halloween de John Carpenter avec la célèbre découverte d'une maison en point de vue subjectif, Eli Roth a pour intention de rendre le plus pur hommage possible au slasher ayant bercé sa cinéphilie. Sauf que ce fameux point de vue n'est pas celui d'un tueur, mais celui d'un invité à une soirée de Thanksgiving. Alors ce décalage intentionnel est là pour nous rappeler la source originale de ce film. A l'origine, c'est une fausse bande-annonce qui avait été insérée entre Boulevard de la Mort de Quentin Tarantino et Planète Terreur de Robert Rodriguez en 2007, dans l'idée d'imiter les doubles programmes d'antan dans les cinémas américains connus sous le nom de Grindhouse. Alors si l'entreprise n'avait pas rencontré le succès espéré, et si les deux films nous étaient parvenus séparés, un petit culte avait été généré autour des fausses bandes-annonces qui regroupaient quand même entre autres Rob Zombie, recréant un film nazi-exploitation avec Nicolas Cage en Fu Manchu, et Edgar Wright rendant hommage au film d'horreur britannique de la Hammer et de la Amicus. Alors comme Robert Rodriguez qui avait adapté, alors lui plutôt piteusement, hein, la bande-annonce de Machete en long métrage, ben voilà que celle de Thanksgiving devient un long 16 ans plus tard. 16 ans plus tard, est-ce que c'est 16 ans trop tard ?
Quelqu'un veut se venger. Et il veut faire de cette fête un carnage.
C'est quoi ce truc ? On a tous été tagués. Nos noms sont autour de la table. Mais pourquoi nous ?
Alors comme tout slasher, ben, la base est simple. Dans la ville ayant marqué la naissance de la fête de Thanksgiving et un an après un Black Friday meurtrier, ben, un tueur se déguise en pionnier et massacre une population qui se demande ben, qui va être le prochain à remplacer la dinde traditionnelle sous les coups de hache. La première interrogation qu'on peut se poser est de savoir si ce film pourrait parler au public français car ben, il est question d'un univers auto-centré sur la culture américaine. D'abord, il y a la fête de Thanksgiving, propre aux États-Unis et fêtée le 4e jeudi de novembre où les Pilgrim Fathers ben, ne durent la survie de leur colonie que par la générosité des natifs américains leur ayant offert de la nourriture, d'où le nom de Thanksgiving, merci pour le don. Rappelons-nous hein, que chez nous, Halloween de John Carpenter était sorti d'abord en 78 sous le titre La Nuit des Masques, ben, la fête d'Halloween n'étant pas encore commercialement implanté chez nous. Et c'est probablement pourquoi d'ailleurs Thanksgiving sort en France accompagné par le sous-titre La Semaine de l'Horreur, histoire de bien bah, cibler le public. Ensuite, bah, le film se passe également pendant le Black Friday. Alors, même si cette date hein, phare hein, de la frénésie consumériste nous est tristement parvenue, bah, ici on reste dans des codes bien américains puisqu'une bonne partie de l'intrigue met en scène où se passe dans un Right Mart, alors qui est un décalque hein, de la marque de supermarché Walmart, hein, souveraine aux États-Unis. Alors on pourrait faire un équivalent avec une enseigne comme Carrefour hein, chez nous, mais cela serait oublier ben, également toute une mythologie développée par la culture populaire et le cinéma américain autour du mall, hein, le supermarché, au sein hein, de multiples films mettant en scène des aventures adolescentes dans les années 80 et 90, ben, y compris ben, des films d'horreur et des slashers. Le dernier exemple en date étant la saison 4 de Stranger Things, véritable pot pourri de ce que John Hughes et consorts faisaient. Alors il faut dire hein, que la filmographie d'Eli Roth hein, n'est au final pas très éloignée hein, de l'idée de pot pourri aussi. Hein. On dénote déjà une manière un peu originale hein, de renouveler le slasher avec Cabin Fever, acter avec Saw de James Wan ben, la naissance du torture porn avec ses deux hostels, puis rendre hommage au film de cannibale italien avec The Green Inferno, et aussi remaker un petit classique avec Knock Knock, ou un grand classique mais de façon complètement ratée avec Death Wish, alias un justicier dans la ville.
Je crois bien que nous allons passer un très bon Thanksgiving.
Bon appétit.
Thanksgiving, on s'en doute, ben, ne réinvente pas la roue, mais contrairement à certaines autres réalisations de Ross, ben, s'en sort un petit peu mieux au niveau esthétique car il quitte hein, ses cadres souvent très plats pour du mouvement et un dynamisme salutaire. Alors on serait presque tenté hein, de dire qu'on a l'impression de voir un film Amblin de la grande époque, hein. Alors un petit peu comme La Prophétie de l'Horloge hein, qu'il avait réalisé en 2018 dans une indifférence malheureusement générale, mais cette fois-ci très très gore hein, et bien sûr très très bête. Et c'est à la fois ben, la force et la faiblesse éternelle, j'ai envie de dire, d'Eli Roth, hein, de faire du pas très neuf avec du vieux, qui ne paraît pas si vieux car il est si bien conçu qu'il ne prend pas vraiment de rides. Par contre, ben, l'impression de déjà vu se faire sentir, et même si pour les aficionados comme moi, hein, on y prend forcément du plaisir devant l'honnêteté de l'entreprise et la volonté de se moquer sans phare des traditions consuméristes, hein, ben, on regrette l'absence d'un parti pris scénaristique un tant soit peu original, ben, qui aurait pu apporter de l'eau au moulin du slasher en 2023, ben, époque à laquelle il fait presque figure ben, d'anachronisme. Mais bon, parfois, ces petites bulles déconnectées font quand même du bien.
Thanksgiving, la semaine de l'horreur, est en salle depuis le 29 novembre. Et si nous parlions maintenant de Napoléon ?
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Napoléon détient le record absolu des ventes de livres et des personnages historiques représentés au cinéma et à la télévision, selon l'historien Antoine de Beck. Alors, on ne peut pas dire que le réalisateur britannique Ridley Scott ait caressé les spectateurs français dans le sens du poil dans son film qui s'attache à Napoléon, mais aussi à ses amours, hein, puisqu'il a déclaré « Les Français n'aiment même pas le film, les Français ne s'aiment pas eux-mêmes ». Voilà, c'est ce qu'il a déclaré à la BBC. Et toi, tu l'as vu ce film ?
Oui. Et je peux pas dire que je l'ai vraiment aimé, mais je retiendrai quand même certains points positif malgré tout. D'ailleurs, on va commencer par le point positif, et c'est bizarrement celui qui irrite, voire scandalise certains historiens et critiques, hein, certainement à juste titre, hein, c'est que moi je suis un petit peu pervers, mais qui s'avère plutôt jouissif à l'écran, hein, ressent quelque peu le niveau, celui d'avoir dépeint un Napoléon un peu médiocre, un peu bas du front, un stratège quand même brillant, hein, mais buté et responsable, on peut le dire quand même, d'une centaine de milliers de morts. Hein. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais c'est quand même assez impressionnant.
Alors, mais ce qu'a dit un historien, c'est que le film ne montre pas que la guerre, ça se fait à plusieurs et que il peut pas être le seul responsable.
Mais
non,
voilà. Mais il y a quelque chose, j'en parlerai plus tard, ouais. De très très simpliste. Hein. Alors Ridley Scott pousse la farce parce que c'est presque ça, encore plus loin en montrant l'empereur. Alors il est adepte de la levrette punchy, un peu à la manière de lapin excité, hein, tout en étant profondément amoureux de Joséphine,
ça n'empêche pas,
qui incarne donc sa muse, sa maîtresse, sa femme et sa mère en même temps. Alors des détails qui ont de quoi alors peut-être agacer les spécialistes du personnage, hein, critique émise d'ailleurs souvent dans des journaux plutôt de droite. Hein. Alors en bon british un peu narquois, hein, Ridley Scott taille un costard aux Français à travers la figure mythique du plus célèbre militaire de notre chère patrie. Mais passé ce côté ludique, hein, qui fait écho avec l'autosuffisance de certains hommes d'État contemporains, parce que je crois que c'est un peu le but aussi, c'est de parler de nous dirigeants d'aujourd'hui, hein. Le film est quand même décevant artistiquement, hein, tant sur le plan esthétique que narratif, hein. Donc je vais laisser aux exégètes le soin de détailler tous les contresens et révisionnismes de l'histoire, mais il y a quand même un détail, hein, qui m'a quand même bien surpris concernant le personnage de Joséphine, hein, par ailleurs incarné de façon très crédible par Vanessa Kirby. Alors la seule vraiment à tirer son épingle du jeu en termes d'interprétation, hein, plus que Joaquin Phoenix, hein, mais j'y reviendrai aussi. Alors en effet, Joséphine, elle avait 50 plus que Napoléon, en fait, hein, ce qui expliquait en partie le fait qu'elle ne pouvait pas lui donner un descendant. En fait, elle avait plus de 40 ans, hein, quand ils se sont rencontrés. Hein. Alors que dans le film, c'est quand même un problème parce qu'elle a au moins 15 ans de moins que lui et donc ne peut pas être stérile étant donné qu'elle a déjà deux enfants. En fait, c'est quand même quelque chose qu'on peut se poser. Alors, c'est vrai, les invraisemblances comme ça, il y en a souvent dans les films. Hein. Alors, c'est un petit point noir en apparence, mais qui interroge. Pourquoi pas avoir respecté la réalité objective, hein, c'est-à-dire prendre là une actrice plus âgée. C'était quand même simple. Alors les auteurs, à mon avis, restent quand même engoncés. Là, c'est sur les travers hollywoodiens où un acteur célèbre doit toujours être secondé par une comédienne plus jeune. Mmh. Bon, fin de la parenthèse, hein, pour cette réflexion qui peut être un hommage à Marine qui aurait certainement soulevé le problème.
Oui, effectivement.
Quel est votre nom ?
Napoléon.
Le cours de ma vie vient-il de changer, Napoléon ?
Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier. Je vous suggère le titre de roi.
À moins d'être féru du personnage et d'en connaître tous les enjeux, hein, le scénario, très désordonné et désincarné, ne captive jamais. Alors, se résumant à une série de séquences répétitives, alors dénuées d'ampleur, hein, construites toujours sur le même principe. Napoléon va à la guerre, revient souvent victorieux et retrouve sa Joséphine dans l'intimité. Tout ce qui est de l'ordre de la réflexion politique, de la stratégie militaire, de la complexité des relations entre les empereurs passe littéralement à la trappe. On a l'impression d'assister à un film de guerre, des fois un peu débile quand même, hein, qui nous présente donc un type qui part au front pour tuer des gens et devenir quelqu'un d'important. Et c'est tout. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Il faudrait peut-être conseiller à Ridley Scott de lire des livres d'histoire ou de visionner un jour le film d'Abel Gance ou même Adieu Bonaparte de Youssef Chahine qui s'attardait sur l'épisode en Égypte. Ici, complètement évincé avec une séquence un peu absurde.
Oui, on peut même le rappeler. C'est-à-dire qu'il montre Napoléon qui pilonne une pyramide.
Alors elle existe toujours.
Oui, alors qu'il n'a jamais fait ça. Napoléon n'a jamais fait ça. Et au contraire, c'est à partir de Napoléon, de la campagne napoléonienne, qu'on déchiffre les hiéroglyphes.
Voilà. Oui, mais c'est vrai que ça, c'est complètement fou. Hein. C'est l'effet Star Wars, je crois. Alors la mise en scène, alors là on parle plutôt mise en image et d'une technicité parfaite, hein, c'est-à-dire la mécanique, mais sans émotion, hein, dans la droite lignée des derniers films du réalisateur, avec toujours cette complaisance pour les couleurs désaturées tirant vers le gris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul moment, même quand il fait beau, où le soleil est bleu, c'est toujours gris. Alors les 2-3 séquences de bataille sont expédiées avec une étonnante désinvolture, pourtant il y en a une en amorce dans la neige, dans la glace, qui est plutôt belle. Alors il faut attendre la dernière pour retrouver un peu de souffle et de gigantisme. Hein. Alors l'explication pour certains de ce semi-naufrage serait liée au montage. Le film qui sort en salle dure 2h38, mais la version que souhaitait donc Ridley Scott et qui va être diffusée sur Apple Plus est de 4h30. Alors effectivement, ça peut tout changer, mais ce sera sans moi, en fait. Hein. Pour finir, un mot sur Joaquin Phoenix, hein, qui invente une forme de monolithisme surjoué. C'est assez curieux, il a une expression figée pendant tout le métrage, et il te le fait bien sentir et bien savoir, quoi. C'est-à-dire que c'est amusant au début, mais ça devient rapidement lassant. Bref, Napoléon n'est pas une purge absolue, mais on va dire un gros divertissement, on va dire grossier même, parfois amusant, mais souvent vide. Alors, il est loin le temps, enfin, en ce qui me concerne, hein, d'Alien et de Blade Runner, hein, parce que moi, je considérais Ridley Scott comme un grand metteur en scène jusqu'à la fin des années 80. Il est même étonnant qu'à 86 ans, aujourd'hui, Ridley Scott soit encore à la tête de ce genre de production quand même pharaonique. Mmh.
Donc voilà, à vous de vous faire votre idée maintenant. Hein. Napoléon est en salle depuis le 22 novembre.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Il y aura une interview, celle de Katel Kelleveré pour le film Le Temps d'aimer.
Et moi, je vous parlerai d'un très joli film américain indépendant, Fremont, dans la lignée des films de Jim Jarmusch.
À la semaine prochaine.